Bonjour mes frères et mes sœurs. Pourquoi sommes-nous dans l'Église? Comment sommes-nous arrivés dans l'Église? Qui est-ce qui nous a appelés? Était-ce notre propre choix? Ou est-ce Dieu qui nous a appelés? Si c'est Dieu qui nous a appelés, et c'est le cas, pourquoi Dieu nous a-t-il appelés? Qu'avons-nous plus que les autres en ce monde? Je dirais beaucoup moins que les autres pour la plupart du temps. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il choisis, nous, pas les autres? Nous ne sommes pas meilleurs, nous le savons. Nous sommes moins talentueux, nous le savons, d'une façon générale. Mais c'est Dieu qui nous a choisis. Pourquoi nous a-t-il choisis? Parce qu'il a vu en nous quelque chose qu'il pourrait vraiment employer et parce que nous avions, nous, l'étoffe nécessaire pour faire le travail qu'il avait en tête. C'est ça. Nous sommes dans l'Église car nous avons une mission à accomplir sous le Christ. Cette mission est de proclamer l'Évangile, de prêcher la vérité, de dire à tous qu'il y a un espoir pour l'humanité entière. Voyez-vous, nous vivons dans un monde triste, un monde qui s'est éloigné de Dieu dès le commencement, dès le premier couple. Donc, ce monde, en s'éloignant du Christ, de Dieu, est devenu un endroit mauvais à vivre. Et pourtant, on aurait pu être heureux. On aurait pu jouir de la vie. On aurait pu avoir tout ce dont nous avons besoin. Et encore aujourd'hui, si nous marchons, et si les autres dans le monde marchaient, dans la voie que le Christ a tracée devant nous dans la Bible. Mais parlons de nous, de vous et de moi. Nous étions dans le monde, nous avions nos propres religion, mettons, nos propres croyances. Et voilà qu'un jour, Dieu nous a ouvert l'esprit, nous avons commencé à penser, à comprendre, et nous avons accepté l'appel de Dieu. Nous nous sommes fait baptiser, nous avons reçu le Saint-Esprit. Au début, nous étions tout enthousiasmés. Pour nous, il n'y avait rien d'autre qui comptait, l'Église. Tout intérêt était secondaire à l'Église. C'est juste. C'est ainsi que ça doit être jusqu'au bout. Notre premier amour, c'était l'Église, c'était Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Certains d'entre nous, nous avons perdu cet enthousiasme. Nous avons perdu ce zèle. Nous avons perdu cet amour. Pourquoi? En fin de compte, ceux qui ont perdu cet amour, ceux qui ont perdu l'Esprit de Dieu, pour ainsi dire, ont quitté l'Église. La question importante que je vous pose aujourd'hui, vous, allez-vous aussi quitter l'Église? Si tel est le cas, pour quelle raison? C'est important. Voyez-vous, les gens qui ont quitté l'Église étaient tout aussi sincères que vous, tout aussi convaincus que vous, tout aussi enthousiasmés que vous au début. Mais quelque chose est arrivé. Quoi? Le savez-vous? Revenons au commencement. C'est Dieu qui nous appelle. Lorsque Dieu nous appelle, il nous donne la force nécessaire, l'intérêt nécessaire, la compréhension nécessaire pour pouvoir avancer dans le bon chemin. Dieu nous appelle, mais il y a un autre pouvoir, une autre puissance, Satan le diable, qui agit par la permission divine, pour nous séduire. Alors, il y a une sorte de concurrence, je dirais, entre guillemets, entre Dieu, qui peut faire toutes choses, et Satan, le séducteur, qui est le séducteur, qui a pour but de nous détruire. Satan veut que nous soyons détruits, car Satan ne veut pas que nous entrions dans le royaume de Dieu pour être membres de la famille divine. Alors, je vous pose la question. Avez-vous jamais pris le temps pour voir comment Satan vous séduit ou comment il séduit les autres de par le monde? Il nous faut succomber. Il veut absolument que nous succombions. Il fera tout. Mais Dieu fera aussi tout pour vous protéger. Il y a donc, en quelque sorte, d'une part, une protection, d'autre part, une attaque. Mais qu'est-ce que c'est qui nous fait succomber? Qu'est-ce que c'est qui nous fait vraiment nous détourner de Dieu, nous détourner de l'Église où Dieu nous a entrés? La réponse est simple. Le péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression des lois divines. Pourquoi n'aimons-nous pas les lois divines? Qu'est-ce qu'il y a de mal ou de mauvais à aimer notre prochain, à ne pas mentir, à ne pas voler, à ne pas commettre l'adultère? Qu'est-ce qu'il y a de mal à tout cela? Mais voyez-vous, l'esprit de l'homme, sous l'influence de Satan, cherche à se plaire à lui-même. Tout ce qui est charnel, tout ce qui nous plaît à notre sens physique, je dirais, c'est cela sur lequel Satan met l'accent. Notez ce que Ésaïe dit dans son... Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2, je cite, « La main de l'Éternel n'est pas très courte pour sauver. » Voyez-vous, c'est clair, Dieu peut nous sauver. Et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Vous savez, on voudrait parfois avoir une oreille qui nous entende. Et voilà que Dieu est toujours là. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous entendre. Et Ésaïe continue au verset 2, chapitre 59. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » C'est quoi les crimes? Ce sont la façon, notre façon d'agir. Et Ésaïe dit, « Ce sont vos péchés, ce sont nos péchés, les vôtres et les miens, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » c'est très simple. Ce sont nos péchés qui cachent la face de l'Éternel et qui empêchent Dieu de nous écouter. Je vous pose la question, une question très importante. Que faites-vous pour lutter contre les tentations de Satan? Que faites-vous pour rester attaché au Seigneur, au Christ? Que faites-vous pour maintenir l'unité dans l'Église? Souvent, nous, à cause de nos propres, je dirais, péchés, ou bien de nos propres intentions, nous faisons des choses qui séparent les membres de l'Église les uns des autres. Et c'est vrai. Lorsque vous faites des choses qui ne sont pas bonnes, lorsque vous semez la division, lorsque vous dites des choses qui ne sont pas justes, lorsque vous critiquez, lorsque vous jugez, lorsque vous répandez des rumeurs, tout ça, ça divise. Tout ça vraiment cause un dégât terrible au sein de l'Église. Et si vous en êtes coupable, si vous en êtes responsable, je dirais que vous avez beaucoup à vous repentir. C'est intéressant car le Christ est venu proclamer l'Évangile. Le Christ est venu nous aider à comprendre ce que c'est que la vérité. Le Christ est venu nous révéler Dieu le Père. Tout ça, nous savons, c'est dans la Bible. Mais tâchez de voir ce qui s'est passé. Le Christ, ses apôtres, tous étaient là. Ils commençaient, les apôtres, à apprendre ce que le Christ avait en tête. Et voilà que, à peu près 20 années après la mort et la résurrection du Christ, il y avait déjà des divisions dans l'Église. 20 années après! Est-ce possible? Oui, parce que nous avons la preuve dans l'histoire. Notez-le. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 à 11, je citerai. L'apôtre Paul dit, « Je vous exhorte, dit-il, frère, par le nom du Seigneur, à tenir un même langage. » Autrement dit, ne pas avoir des divisions parmi vous. Il dit, à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis. Voilà le sens, voilà le secret. Dans un même esprit, dans un même sentiment. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul écrit cela? Il dit, « J'ai appris, dit-il au verset 11, à votre sujet, qu'il y a des divisions parmi vous. » Comment division? Comment dispute? Il dit, quelques-uns d'entre vous disent qu'ils sont de moi, d'autres disent qu'ils sont d'Apollo, d'autres disent qu'ils sont de Céphas, de Pierre, etc. Et l'apôtre Paul ajoute, le Christ, au verset 11, le Christ, au verset 13 plutôt, le Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Voyez-vous, ce sont des choses sur lesquelles nous devons vraiment mettre l'accent. Des choses auxquelles nous devons vraiment réfléchir. Est-ce moi qui vous fais quelque chose pour que vous arriviez au royaume de Dieu? Non. Je suis un instrument. N'importe qui, n'importe quel ministre ne peut pas vous sauver. C'est le Christ qui nous mène vers Dieu, vers le but. Donc, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est pas lui, Paul. Pourtant, il était grand, l'apôtre Paul. Il ne pouvait absolument rien faire. C'était le Christ qui faisait tout, et c'est le Christ qui fait encore tout aujourd'hui. Et Paul dit, je répète, le Christ est-il divisé? Verset 13. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Voilà des choses, mes frères et mes sœurs, auxquelles nous devons réfléchir. Si nous avons vraiment notre esprit en tout temps, tout cela, nous ne pouvons pas quitter l'Église. Ce n'est pas possible. Mais c'est parce que nous perdons cette connaissance essentielle que certains d'entre nous préfèrent quitter l'Église. Ne soyez pas dans cette attitude-là, je vous prie. Ne jugez pas. Restez solides, attachés au tronc de l'arbre qui est le Christ. Attachés au roc. Le Christ seul, je le répète, peut nous sauver. La même chose se répète encore dans l'épître de Paul aux Galates. Lorsque Paul écrit aux Galates, ce que je viens de vous dire, qu'il a écrit dans son épître aux Colossiens, son épître aux Corinthiens, il dit, « Je m'étonne, Galates chapitre 1, versets 6 à 7, « Je m'étonne, dit-il, que vous vous détourniez si promptement, là, vous, quel gars de ça, si promptement, autrement dit, ça va vite, si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ. » Nous sommes appelés par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Voilà le problème. Il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Mais malheureusement, ce monde aujourd'hui est tout à fait confus. Vous entendez toutes sortes d'évangiles alors qu'il y a un seul évangile. Et cet évangile proclame le retour du Christ, l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Ça, c'est l'évangile. Et pourtant, je répète, vous avez toutes sortes de bruits en ce qui concerne la religion, toutes sortes de choses qui ne sont pas bibliquement parlant dans la religion chrétienne, la vraie, et qui ne constituent pas l'Évangile. Et Paul ajoute, Galates, verset 1, verset 7, Galates, chapitre 1, verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, voyez-vous, il n'y a pas d'autre évangile. Mais dit-il, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Mes frères et mes sœurs, si certains de ceux que Dieu avait appelés ou que Dieu a appelés quittent l'Église ou ont quitté l'Église, c'est parce qu'ils se tournent vers d'autres évangiles. Alors qu'il y a un seul évangile, le vrai, l'évangile même que le Christ est venu nous annoncer et pour lequel nous avons été appelés, pour que nous puissions aider les uns les autres à proclamer cet évangile de par le monde. Je répète, et je répéterai à travers ce sermon, Dieu ne nous a pas appelés parce que nous sommes meilleurs, pas du tout. Dieu ne nous a pas appelés parce que nous sommes plus intelligents, pas du tout. Dieu nous a appelés parce que nous sommes les plus faibles du monde, si vous voulez, mais parce que nous voulons le servir, nous voulons faire notre part. Malheureusement, certains d'entre nous oublient cela. Certains d'entre nous, nous sommes dans l'Église depuis 20, 30, 40 ans. D'autres sont nouveaux. Mais à l'époque de l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul écrivait ses épîtres, il a dit aux Corinthiens, une vérité qui s'applique encore à nous aujourd'hui. Notez-la. 1 Corinthiens chapitre 3, et je prends le verset 2, il dit, il parle maintenant à ceux que Dieu avait appelés, qui étaient membres de l'Église de Dieu, il dit, je vous ai donné du lait, et non pas de la nourriture solide, dit-il, au verset 2, 1 Corinthiens 3, car, dit-il, vous ne pouviez pas la supporter. Ils n'étaient pas encore prêts. Souvent, voyez-vous, lorsque vous entendez la vérité, vous n'êtes pas tout à fait capable de l'absorber. Ça prend du temps. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un s'intéresse à nous, nous prenons notre temps, nous voulons que la personne comprenne à quoi elle veut s'engager. Mais Paul dit ceci. Il dit, je vous ai donné du lait, car vous ne pouviez pas supporter de la nourriture solide. Et dit, même maintenant, vous ne pouvez pas supporter. Et ça, c'est mauvais. Autrement dit, après quelque temps, vous devez pouvoir supporter la nourriture solide. Je parle maintenant de nourriture spirituelle. Il dit, vous êtes encore charnel. Nous mettons l'accent sur les choses physiques. Verset 3, 1 Corinthiens 3. Vous êtes-il, parmi vous, dit-il, il y a de la jalousie, des disputes. Ne marchez-vous pas, dit-il, selon l'homme, selon la convoitise humaine? Et comment est-ce qu'ils se comportaient? Ils étaient membres de l'Église. Regardez voir comment l'apôtre Paul explique. Il dit, quelqu'un d'entre vous dit, moi je suis de Paul. Un autre, moi d'Apollo. Et Paul dit, qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce que Apollo? Ce sont des serviteurs. Et il dit, j'ai planté, Paul a planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est ça qui compte. C'est celui qui fait croître qui compte. Le reste n'est pas grand-chose. En sorte que, dit-il, celui qui a planté n'est rien, mais c'est celui qui a arrosé n'est rien, mais c'est Dieu qui fait croître et c'est tout. Je paraphrase. Lisez cela vous-même. Il dit, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Rappelez-vous cette phrase. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Un ouvrier n'est pas le patron. Donc, nous faisons ce que le patron nous dit. Le patron, c'est le Christ. Vous êtes, dit-il, le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ce sont de belles paroles. Si nous avions tous réfléchi à cela dès le commencement, certains d'entre nous n'auraient pas quitté l'Église. Et vous-même, si vous vous accrochez à cela, vous ne quitterez pas l'Église. C'est pas possible. Alors, je vous pose la question. Comment travaillez-vous au sein de l'Église? Comment est-ce que vous faites vos devoirs? Quelles sont vos responsabilités? Certainement, dans l'Église, comme dans toute entreprise, mettons, commerciale, il y a des gens qui ont des postes différents. Dans l'Église, il y a des postes différents. Il se peut que vous ayez moins de responsabilités que vous auriez souhaité. C'est possible. Il se pourrait que on ne vous confie pas des choses que vous auriez pu faire mieux que les autres. Ça n'a pas d'importance. C'est le Christ qui est le chef. Si vous mettez vous, vos accents, vos pensées, votre espoir sur le Christ, tôt ou tard, les choses changeront. Pourquoi sommes-nous dans l'Église parfois dans une mauvaise attitude? Quels sont nos rapports les uns avec les autres? Notez ce que l'apôtre Jean déclare dans 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Il dit, nous sommes dans l'Église, dit-il, je paraphrase, parce que le Christ nous a appelés, je paraphrase, je dis, or, dit-il, notre communion, allez voir, notre communion au sein de l'Église est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Donc, lorsque vous êtes en assemblée, sachez que la communion, la réelle, la véritable, est à cause du Christ. C'est en Christ. Voyez-vous, la plupart de nous, nous avons un métier pour gagner notre vie, mais nous sommes des ouvriers, pour ainsi dire. Mais une fois que nous sommes ouvriers, nous devons savoir que nous devons faire ce que le patron nous dit. La même façon, au sein de l'Église, le patron, c'est le Christ. Laissez-le vous dire ce que vous devez faire. Et si vraiment vous y croyez, vous verrez que vous réussiriez et que vous aurez tellement plaisir de servir le Christ parce que le Christ ne fait jamais de faute. C'est quoi un ouvrier? Un ouvrier fait ce que le patron lui dit de faire. De façon générale, le patron sait mieux que l'ouvrier. Notez comment l'apôtre Paul explique cela une fois encore, cette fois-ci dans Éphésiens chapitre 6, lorsqu'il parle justement du rapport entre l'ouvrier et le patron. Verset 5, Éphésiens 6. « Serviteurs, dit-il, obéissez à vos maîtres. » Comme je dis, la plupart d'entre nous, nous travaillons dans le monde. Il dit « à vos maîtres selon la chair », donc dans le monde. « Avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. » Voilà le secret. Si même vous avez un patron qui est méchant, qui vous fait du tort, travaillez pour lui comme si vous travailliez pour le Christ. C'est encore là le secret. Verset 6, Éphésiens 6. « Non pas, dit-il, seulement sous leurs yeux, pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs du Christ. » Là où ça revient. « Qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » « Servez-les, dit-il, avec empressement, comme servant le Christ. » C'est toujours la même histoire. Si vous considérez que le Christ est le chef, et que si le Christ vous guide, dans ce cas-là, même si votre patron humain n'est pas juste, travaillez pour ce patron humain comme si vous travaillez pour le Christ. Vous verrez la différence. Ça ne sera pas peut-être du jour au lendemain, non. Mais ça n'a pas d'importance. Soyez patients. Je sais que ce que je vous dis, ce n'est pas facile. Pour nous tous, quand nous sommes charnels, nous sommes humains. Mais soyez patients. La patience, c'est l'une des vertus de l'Esprit de Dieu. Donc, priez, soyez patients, faites votre devoir. En temps utile, le Christ interviendra. Dans Colossiens chapitre 3, Paul répète cette même recommandation et dit « Serviteurs, verset 22. Serviteurs, dit-il, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas, dit-il, sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais, dit-il, avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. » Ce sont des choses, mes frères et mes sœurs, que nous devons savoir, que nous devons apprendre. C'est cela ce qui signifie vraiment mettre notre confiance en Dieu. Je vous ai souvent dit, je pense que j'ai raconté cette histoire plusieurs fois, mais ça vaut la peine. Lorsque vous avez un patron méchant, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas quelque chose? Je répète, si vous êtes patient, si vous faites votre devoir, en temps utile, Dieu interviendra. Cette histoire que j'ai en tête, ce n'est pas une question d'injustice, mais c'était une histoire que j'avais entendue. Une infirmière, vous savez, la vie d'une infirmière, ce n'est pas facile. Elle travaille dur, ces femmes-là. Donc, une infirmière travaillait plus que les autres, nuit et jour, sans être rémunérée. Et un jour, un médecin lui dit, « Écoutez, mademoiselle, vous travaillez beaucoup trop, beaucoup, beaucoup trop, et vous n'êtes pas payée, vous n'êtes pas rémunérée. Dieu sait que vous méritez davantage. » La réponse de l'infirmière était un chef-d'œuvre. Une réponse que vous devez pouvoir dire, que moi, je devrais pouvoir dire. Il dit, « Docteur, si Dieu sait que je mérite davantage, c'est tout ce qu'il faut. » Voilà l'autre attitude. Donc, qui que soit votre patron, quelle que soit son attitude, si Dieu sait que vous méritez davantage, c'est tout ce qui compte. Mais malheureusement, nous sommes trop charnels. Nous sommes trop égoïstes. Nous avons cette jalousie. Nous avons cet esprit qui voit ce qui n'est pas juste et nous y mettons l'accent. Mes frères et mes sœurs, servez le Christ. Même si ça tend, mais des bâton dans les roues. Ne quittez jamais l'Église, quelles que soient les excuses que vous avez, quels que soient vos propres raisonnements, restez attachés au tronc. Le Christ, dans le sermon sur la montagne, nous décrit l'attitude chrétienne. Prenez le temps de lire ce sermon sur la montagne. J'ai fait plusieurs sermons à ce sujet. Par exemple, juste pour voir quelques petites idées, regardez ce qu'il dit dans Matthieu 6, versets 1 à 5. Matthieu 6, 1 à 5. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Là encore, une autre façon d'expliquer ce qu'est le christianisme. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous voulez montrer aux autres que vous êtes chrétien. Non. Il dit, c'est pas ainsi que vous devez pratiquer votre religion. C'est pas pour être vu. Autrement dit-il, vous n'aurez pas de récompense de la part de votre Père. Au verset 2, Matthieu 6, il dit, lorsque vous faites une aumône quelconque, ne sonnez pas de la trompette. Autrement dit, ne faites pas pour être vu. Je connais beaucoup de gens qui donnent beaucoup pour les pauvres ou bien aux pauvres parce qu'ils veulent être vus. Le Christ dit non, c'est pas ça. Ce sont des hypocrites, dit-il. Ou bien des gens qui sont dans les synagogues, qui font de longues prières, je sais pas quoi. Ils se glorifient eux-mêmes, dit-il. Je paraphrase. Ils ont leur récompense. Je répète, prenez votre temps, lisez le sermon sur la montagne. Vous avez lu, d'accord, relisez. Il y a des gens qui disent, oh moi j'ai vu la Bible, j'ai lu la Bible plusieurs fois, d'accord. Mais ce n'est pas une question de lire la Bible, c'est d'étudier la Bible. C'est plus vous étudiez la Bible, plus vous y trouvez des choses, des perles que vous n'aviez jamais auparavant remarquées. Et le Christ dit au verset 3, toujours Matthieu 6, quand tu fais l'aumône, dit-il, quand tu fais de la charité, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Voilà encore un autre secret. Dieu verra, Dieu voit tout. Ce que vous faites dans le secret, Dieu le voit et Dieu vous récompensera. La même chose avec la prière. Voyez-vous, là encore, parfois, nous prions seuls dans une pièce isolée, c'est très bien. Parfois, nous sommes en compagnie avec d'autres personnes et nous prions en compagnie. Pas de problème. Mais soyez sûr que vous ne faites pas ce que le Christ dit ici. Il dit, lorsque vous priez, verset 5, ne soyez pas comme les hypocrites. Notez ce mot hypocrite. Qui aime ta prière debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vu des hommes. C'est pas ainsi que l'on prie. On prie pour être vu de Dieu. Le Christ dit, ces gens-là reçoivent les récompenses. Vous savez, l'attitude chrétienne au sein de l'Église. Nous avons tous des responsabilités différentes. Nous avons tous des talents différents. L'une des premières choses que nous devons faire, c'est d'encourager les uns les autres. Ne jamais critiquer. Ne jamais juger. Si un changement est nécessaire, laissez Dieu faire ce changement. C'est ça le secret. Voyez-vous, là, dans ce cas-là, vous ne quittez pas l'Église, vous restez dans l'Église, et le Christ, si vous avez raison, fera le changement nécessaire. Laissez Dieu agir. En quittant l'Église, où est-ce que vous allez d'abord? Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer quoi que ce soit? Vous n'êtes plus là. Si vous êtes attaché au tronc de l'arbre, si vous gardez, maintenez l'unité dans l'Église, voyez-vous, si vous ne parlez pas les uns contre les autres, si vous êtes vraiment sincère et vous savez que Dieu est le chef, le Christ est là, créez l'unité par votre attitude, l'unité par la façon dont vous parlez, l'unité de la façon dont vous vous comportez. Notez dans Éphésiens chapitre 4 comment l'apôtre Paul explique cela. L'apôtre Paul a beaucoup eu de souffrances. Mais l'apôtre Paul a aussi beaucoup appris. Voilà pourquoi ce qu'il écrit dans ses épîtres sous l'inspiration divine, cela nous aide à comprendre comment être meilleur chrétien. C'est l'attitude chrétienne dont l'apôtre Paul parle. Il dit au verset 1, Éphésiens 4, « Je vous exhorte, autrement dit, je vous encourage. » Il dit, « Moi le prisonnier. » À cette époque-là, Paul était vraiment prisonnier. Mais même en prison, il nous écrit pour nous encourager. Il dit, « En toute humilité et douceur, avec patience, à supporter les uns les autres. » Regardez voir cette exhortation. Humilité, patience, supporter les uns les autres. Et dit-il, en supportant les uns les autres avec amour, avec charité. Le mot charité, amour sont synonymes. En vous efforçant de conserver, verset 3, Éphésiens 4, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Avez-vous entendu cela? L'unité de l'esprit par le lien de la paix. La paix, c'est beau. La paix, c'est ce dont nous avons besoin. La paix, c'est ce que nous devrions souhaiter chaque jour, à chaque instant dans notre vie, que nous puissions apporter la paix. Il y a toujours raison pour disputer. Ça, ce n'est pas important. Car tout le monde peut disputer. Mais tout le monde ne peut pas apporter la paix. Le Christ, quand il est revenu après sa mort et sa résurrection, la première chose qu'il a dit, « Je vous apporte la paix à ses disciples. » Donc vous-même, tâchez que votre présence apporte toujours la paix, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas facile, je sais. Mais vous verrez les récompenses que vous aurez. Et dit au verset 2, Éphésiens 4, « En toute humilité, voilà cette humilité qui est la base même de la conversion, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Ce sont des mots importants, ce ne sont pas des mots vides de sens. Verset 3, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ça recommence. Voyez-vous, lorsque vous y pensez, qu'est-ce que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, qui serait vraiment précieux? La réponse est simple, rien. Tout ce que nous avons, nous vient de Dieu. Dieu veut que nous puissions faire quelque chose avec ce qu'il nous donne. Nous avons tous un esprit, nous avons des talents. Donc, mettons ces talents à l'œuvre. Ayons notre esprit faire son travail sous l'influence de Christ à faire le bien autour de nous. Et Paul dit, il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés, dit-il, à une seule espérance par votre vocation. Voilà. Si nous avions cette compréhension, il n'y aurait pas des gens qui quitteraient l'Église. Et Paul ajoute au verset 5, il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, autrement dit, même la façon d'être chrétien, il n'y a qu'une seule façon. Le repentir, le baptême, la réception du Saint-Esprit. Un seul Dieu, dit-il, qui est le Père de tous, afin que, dit-il, nous, verset 14, afin que nous, dit-il, nous soyons plus des enfants flottants et emportés par le vent, dit-il, mais des enfants professant la vérité, au verset 15. Lisez le reste. Autrement dit, je vous donne des points saillants. Rappelez-vous que l'Église est le corps du Christ. Le Christ, c'est le chef. Le Christ, c'est l'esprit. Le Christ, c'est celui qui guide le corps. C'est-à-dire l'Église. Dans l'Église, normalement, il y a des postes différents, comme je viens vous dire. Dans l'Église, il y a des responsabilités différentes. Certains sont ministres, d'autres sont diacres, d'autres sont... Ils servent à leur façon. Autrement dit, ce que Dieu vous confie en tant que tâche, en tant que travail, faites-le de votre mieux. Nous sommes là pour servir. Nous sommes là pour maintenir l'unité dans l'Église. Lorsque vous entendez un sermon, ne dites pas « Oh, je l'ai déjà entendu ». C'est possible. Un sermon, c'est quoi? Un sermon, c'est ce que la Bible dit. Et ensuite, nous l'expliquons, et nous l'expliquons de façon à ce que vous puissiez comprendre. Mais ce ne sera pas des choses nouvelles dans tous les sens. Ça sera une nouvelle façon de compréhension. Donc, écoutez les sermons avec attention. Ne dites pas « je le sais déjà ». Je peux entendre 100 fois un sermon sur la foi, ou bien l'espoir, ou l'amour. Et si je fais attention, chaque fois, j'y découvrirai un point nouveau. Ça, c'est le secret. De la même façon, lorsque vous étudiez la Bible, il se peut que vous ayez lu la Bible des dizaines de fois. C'est possible. Et c'est juste. Mais chaque fois que vous y lisez des mots, des choses comme ça, si vous faites attention, vous trouverez une petite nuance. C'est la beauté même, je dirais, de l'étude de la Bible. Que les sermons que vous entendez ne soient pas une routine pour vous. Ne dites pas « je le sais ». Car si vous dites « je le sais », c'est que vous ne savez pas. Et c'est vrai. Ne souffrez pas de la propre justice. Donc, écoutez les sermons, écoutez ce que nous disons, lisez ce que nous lisons, toujours sous l'inspiration de Dieu, et vous verrez comment votre vie changera. Comment vous ferez des progrès chaque jour de plus en plus, et comment vous serez solide dans l'Église. Vous ne quitterez pas l'Église. Si vous écoutez les sermons comme vous devriez les écouter, vous ne pouvez pas vraiment quitter l'Église. Regardez voir nos ancêtres. Ils avaient Dieu qui les guidait. Dieu les a fait sortir de l'Égypte parce qu'ils criaient, ils demandaient à Dieu d'avoir de la compassion. Dieu a eu de la compassion. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas continué. Pourquoi? Parce qu'ils ont détourné leurs yeux de la colonne de nuée que Dieu avait mise devant eux. À cette époque-là, voyez-vous, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'était pas encore descendu. Donc Dieu a donné à ce peuple, à nos ancêtres, en tant que signe, une nuée. Exode chapitre 13, verset 21. Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée. Pourquoi? Pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Regardez voir, c'est beau. Et lorsque vous comprenez cela, vous verrez l'amour de Dieu, parce que Dieu ne voulait pas abandonner son peuple. La Bible ajoute au verset 22, « La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Pourquoi? Parce que Dieu les aimait. Dieu les conduisait au pays promis. Ont-ils cru à Dieu? Non. Ils ont détourné leurs yeux, ils n'ont pas vu la colonne, ils voyaient les autres nations qui jouissaient des plaisirs charnels, ils voulaient être comme eux. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette nuée devant nous. Certaines personnes voudraient avoir une nuée. Vous n'avez pas besoin de nuée, ni le jour, ni la nuit. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu après notre baptême, qui est toujours en permanence avec nous, qui nous guette toujours en permanence dans le chemin que nous suivons. Donc, si nos ancêtres n'ont pas pu réussir à entrer dans le pays promis, parce qu'ils ont détourné leurs yeux du but, parce qu'ils n'ont pas vu la nuée. Aujourd'hui, si certains d'entre nous, nous nous détournons de Dieu, c'est parce que nous jugeons, c'est parce que nous critiquons, c'est parce que nous ne voyons pas la présence de Dieu dans les décisions prises au sein de l'Église. Vous vous plaignez, pourquoi? Vous critiquez, pourquoi? Vous voyez le mal, pourquoi? Avez-vous vraiment les yeux dont vous avez besoin pour voir la présence de Christ. Si vous voyez des choses autour de vous dans l'Église qui ne sont pas justes, qu'est-ce que vous faites pour changer? Vous-même. C'est ça le secret. Changez vous-même. Êtes-vous toujours bon? Êtes-vous toujours joyeux? Êtes-vous toujours en paix? Êtes-vous toujours quelqu'un que les gens voudraient voir, voudraient consulter, voudraient parler avec? Car on a tous besoin les uns des autres. Soyez donc des gens qui apportent la paix, qui ne jugent pas. Si, je répète et je répéterai, il y a besoin de changement, laissez Dieu faire les choses, laissez le Christ agir. Ce sont des conseils que tous les ministres vous donnent. Dans tous les sermons que je fais, dans les émissions radiophoniques que je fais, dans les conférences publiques que j'ai faites, je donne toujours le même principe. Laissez le Christ agir. Soyez sûr que vous-même, vous faites votre part. Je sais qu'il y a toujours lieu, il y a toujours besoin d'un changement, d'accord, mais que le changement se fasse par le Christ à sa façon et non pas par vous à votre façon. Ce n'est pas toujours facile. Ça sera facile si vous avez les yeux sur le Christ. Ça sera facile si vous ne prenez pas un sermon ou bien une étude biblique ou bien une prière en tant que routine. La routine, c'est ce qui vous détruit. Et Satan voudrait que vous pensiez à sa façon, c'est-à-dire routine, en disant « Oh, c'est pas vrai ». Comme il a fait au premier couple, il dit « Dieu vous cache quelque chose ». Mes frères et mes sœurs, vous savez fort bien, Dieu ne vous cache rien. C'est parfois nous avons les yeux fermés. Nous écoutons d'une oreille. Ou alors, nous voulons que les autres fassent leur part avant que nous fassions la nôtre. Ça, ce n'est pas une excuse. L'apôtre Jacques écrit dans son épître chapitre 1, versets 22 à 25, il dit, « Mettez en pratique, voyez-vous, mettre en pratique, vivre la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si vous écoutez seulement et vous ne mettez pas en pratique, donc l'apôtre Jacques dit, eh bien, vous vous trompez. Si quelqu'un, verset 23, écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Avez-vous jamais fait ça? Moi, vous savez, de temps en temps, je m'amuse, je me regarde dans un miroir, puis après, je change de position, je ne suis plus dans le miroir. Alors, est-ce que je n'existe plus? Si, si. C'est seulement que j'ai changé de place. Donc, si vous voulez être dans le miroir où vous pouvez vous voir vous-même, soyez dans le miroir du Christ, la Bible. Comme ça, vous verrez toujours comme vous êtes. Il dit, si quelqu'un, dit-il, regarde dans le miroir son visage, et si, après s'être regardé, s'en va, autrement dit, il s'écarte, comme je viens de vous dire, oublie aussitôt quel il était, alors, à quoi cela sert? Au verset 25, Jacques 1. Mais dit-il, celui qui aura plongé les regards, et c'est ça qui compte, dans la loi parfaite. C'est quoi la loi parfaite? Ce sont les lois dans la Bible. Principalement les 10 commandements. Je dis principalement parce que les autres lois sont toujours aussi valables. Il dit, dans la loi parfaite, la loi de la liberté. La loi de la liberté. Combien de gens y a-t-il dans ce bas monde qui regardent les lois divines en tant que loi de la liberté? Et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux. Ça, c'est un autre secret. Nous savons, mais nous oublions. Nous savons et nous ne faisons pas attention. Mes frères et mes sœurs, lorsque vous connaissez une chose, ne l'oubliez pas si c'est quelque chose que Dieu veut que vous vous rappeliez. Mais se mettant, dit-il, à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ce sont des conseils simples et difficiles en même temps. Simples car nous laissons le Christ agir. Difficiles parce qu'il y a toujours cette lutte avec notre nature charnelle. Nous sommes tous entrés dans l'Église à des moments différents, et c'est normal. Il y en a certains d'entre nous qui sont dans l'Église depuis 40 ans, même 50 ans, d'autres un ou deux ans. Quelle différence cela fait-il? Eh bien, la différence peut être petite ou grande. Ce qui compte, c'est que nous devons chaque jour progresser dans ce que nous apprenons, dans ce que nous croyons et dans la voie que le Christ nous montre devant nous. Si vous êtes attaché au Christ, si vous êtes attaché au tronc de l'arbre, si vous êtes attaché au roc, rocher de l'Ancien Testament qui est le Christ, vous ne quitterez jamais l'Église. Les apôtres du Christ, au commencement, ne comprenaient pas grand-chose. Et pourtant, ils étaient avec le Christ, ils l'écoutaient. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, donc ils n'avaient pas la profonde compréhension spirituelle. Mais ils avaient une bonne attitude. Les apôtres, lorsque le Christ les a appelés, ils l'ont suivi. Les apôtres, lorsqu'ils ont entendu le Christ, ils n'ont pas toujours compris ce que le Christ disait. Ils ne savaient même pas ce que c'est que la résurrection. Ils ne comprenaient pas comment Jésus pouvait mourir. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais quand même, ils étaient dans la bonne attitude et ils voulaient comprendre. Regardez leur attitude. Matthieu 26, verset 33, le Christ a dit, « Je serai pour vous, dit-il, cette nuit une occasion de chute, le jour de la Pâque. » Il dit, il est écrit, « Je frapperai le berger, le Christ, les brebis du troupeau seront dispersées. » Ensuite, le Christ explique ce qui va se passer. Il vous dit, « Après cela, dit-il, je serai ressuscité. » Voilà la résurrection, le but de la vie. Les apôtres, à l'époque, ne comprenaient même pas ce que c'est que la résurrection. Il dit, « Et je vous précéderai en Galilée. » Alors, il révèle une vérité que eux, ils n'ont rien compris. Le Christ mourra, ensuite il sera ressuscité. Lorsque les apôtres ont entendu cela, voyez-vous l'attitude de l'apôtre Pierre. Pierre était toujours le premier à parler, un homme plein de courage. Pierre, prenant la parole, verset 33, dit, « Quand tu serais, pour tous les autres, une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Quelle promesse! Voilà encore un autre danger. Nous faisons des promesses dans la Bible en hâte. Ne faites pas de promesses, de peur que vous ne puissiez les respecter. Réfléchissez profondément avant de vous engager dans quelque chose. Mais une fois la décision prise, après mûre réflexion, dans ce cas-là, ne changez pas de direction. Ici, Pierre avait la bonne attitude. Franchement, il entendait ce qu'il disait. Il ne serait jamais, le Christ ne serait jamais pour lui une occasion de chute. Et le Christ, lorsqu'il a entendu Pierre lui dire qu'il ne quitterait jamais le Christ, il dit à Pierre, « Je te dis, dit-il à Pierre, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Mais Christ savait. Pierre n'y croyait pas. Parce que Pierre aimait le Christ. Pierre était sûr de lui-même. Il est sûr de lui-même en ce qui concerne la compréhension charnelle, physique, et non pas spirituelle. Parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Mais il avait la bonne attitude. Pierre, en entendant cela, au verset 35, dit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, c'est bon de pouvoir dire ça. C'est fantastique. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Si c'était vrai, ça serait fantastique. Et c'était vrai en ce qui concerne Pierre, d'après sa façon de comprendre charnel. Pas vraiment en réalité, parce qu'il n'avait pas de la force. Il avait la nuée, mais il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui-même pour avoir ses forces. Voilà pourquoi il a fait cette promesse, et le Christ savait fort bien que ça ne serait pas le cas. Verset 35, lorsque Pierre a dit que je mourrai avec toi, tous les autres disciples dirent la même chose. Tous les autres apôtres ont dit la même chose. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez fort bien, lorsque les soldats sont venus pour arrêter le Christ, la Bible dit que tous ont pris la fuite. Étrange! Ils ont fait une promesse, mais lorsque le danger vient, dans ce cas, tous prennent la fuite. Est-ce le cas en ce qui vous concerne? Est-ce le cas pour ceux qui ont quitté l'Église? Nous avons eu ces derniers temps certains qui sont partis, qui ont quitté l'Église à cause de certaines choses. C'est pas la peine d'entrer dans les détails ici. Mais le fait est que ils n'avaient pas les yeux fixés sur le tronc de l'arbre, sur le rocher, sur le Christ. Ils ont laissé Satan les séduire. Ils ont laissé Satan leur dire que, écoutez, vous êtes sur le mauvais chemin. Car si le Christ était en charge, quelque chose n'arriverait pas. Autrement dit, Satan vous poussera à être jaloux. Satan vous poussera à succomber à vos sentiments charnels. Satan vous fera voir les choses à sa façon, qui est injustice, alors que Dieu lui-même est plein de justice. Laissez-moi vous poser une question, mes frères et mes sœurs. Une simple question. Et je voudrais que ceux qui ont quitté l'Église, si jamais ils m'entendent, puissent répondre à cette question. Si vous décidiez de quitter l'Église de Dieu, où iriez-vous? Qu'est-ce que vous avez appris en entrant dans l'Église? Lorsque le Christ vous a mis dans l'Église, vous avez appris l'obéissance, vous avez appris la volonté de Dieu, vous avez appris ce qu'est l'Évangile, vous avez appris ce que se passera après la mort et la résurrection. Autrement dit, vous avez appris le but de la vie et la façon d'y atteindre. Où est-ce que vous trouvez cette vérité ailleurs? Nous avons cette certitude parce que nous avons de la Bible en tant que manuel de vie. Donc, je répète la question, si vous quittez l'Église, où iriez-vous? Qu'est-ce qui vous enseignerait cette même vérité avec cette même force? Dans l'Évangile selon Jean, c'est exactement ce qui s'est passé en ce qui concerne cette question que je vous pose et la réponse que certains ont donnée. Voyez-vous, dès le commencement, à l'époque du Christ aussi, les apôtres avaient devant eux ce même défi. Ils avaient des choses, ils entendaient des choses qu'ils ne comprenaient pas. Et c'est normal, il y a beaucoup de choses que certains d'entre nous ne comprennent pas. Avec le temps, ils comprendront mieux, mais il y a toujours des choses dans la Bible que nous ne comprendrons pas. Je dis franchement, il y a des choses dans la Bible que je ne comprends pas profondément, mais je sais que si j'attends le moment propice, en temps utile, le Christ nous révélera la réponse. C'est tout ce qui compte. Ce qui est nécessaire, ce qui est de base, le Christ nous révélera toujours. Autrement dit, ce dont j'ai besoin pour être sauvé, j'ai cette compréhension, j'ai cette connaissance. Les détails, laissez le Christ vous répondre en son temps. Mais revenons aux apôtres qui n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu. Le Christ leur a dit plusieurs choses. Ils ne comprenaient pas toujours tout, mais ils étaient, comme je viens de vous dire, dans une bonne attitude. À un certain moment, à l'approche de la Pâque, il a dit une vérité qui les a secoués profondément. Jean chapitre 6. Le Christ a dit, « Je suis le pain de vie. » Jean 6, verset 35. Ça veut dire quoi? Le Christ, à l'époque, était avec eux. Il dit, « Je suis le pain de vie. » Nous savons tous ce que c'est que le pain. Nous en mangeons. Alors, pourquoi est-ce que le Christ a dit cela? Ensuite, il ajoute, celui qui vient à moi, dit-il, n'aura pas faim. Celui qui boit, dit-il, mon sang, n'aura pas soif. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a rien. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui l'entendaient ne comprenaient pas. Et il répète au verset 38, Jean 6, je suis descendu du ciel pour faire, dit-il, non pas ma volonté, alors le secret, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Or, dit-il, verset 39, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Absolument rien. Mais, dit-il, que je les ressuscite au dernier jour. Voyez-vous, même ici, le Christ révèle aux disciples, aux apôtres, le but de la vie. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne comprennent pas cela. Lorsque nous mourrons, nous n'allons pas au ciel tout de suite. Nous n'allons pas à l'enfer non plus. Lorsque nous mourrons jusqu'au moment de la résurrection des morts. Et c'est le Christ qui nous fait ressusciter pour arriver à notre but. Ça, c'est autrement dit, le but de la vie se révèle déjà dans ce verset 39, Jean 6. Et le Christ ajoute, il explique, la volonté de mon Père, dit-il au verset 4, car au verset 4, la volonté de mon Père, dit-il, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui et la vie éternelle. C'est bon. Ensuite, il ajoute encore, et dit-il, je le ressusciterai au dernier jour. Dans ces deux versets-là, vous voyez déjà le but de la vie. Pourquoi nous sommes nés? Qu'est-ce qui va se passer? C'est dommage que beaucoup de gens ferment les yeux lorsqu'ils lisent la Bible. Mais cette phrase-là, lorsque le Christ a dit qu'il est le pain dont il devait manger, était toujours un mystère. Les gens ne comprenaient pas. Verset 52 à 66, toujours Jean 6. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. Il disait, comment est-ce qu'il peut nous donner sa chair à manger? Donc, il y avait dispute entre eux. Vous lisez le reste des versets, mais je vais prendre un verset qui est essentiel ici. Le Christ a dit au verset 54, toujours Jean 6, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Ceci se réalise lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Le Christ entre en vous, comme c'est marqué dans Galates, chapitre 2, verset 20. Et ceci entre en vous, et vous commencez donc à agir comme le Christ agit, à penser comme le Christ pense, et vous serez une partie de ce royaume de Dieu, pour ainsi dire, tant que vous êtes encore chair et sang, mais vous aurez la partie du royaume de Dieu par l'Esprit du Christ qui sera en vous. Et le Christ a dit, « Ma chair est une nourriture spirituelle », verset 55. Il dit, « Comme le Père », verset 57, « est vivant, dit-il, vous aussi, vous le serez si vous mangez ma chair. » Je paraphrase, mais lisez le tout attentivement, ça vaut la peine. Et répète, verset 58, « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. » C'est le Christ, descendu du ciel. Il est devenu le pain parce que nous mangeons ce pain en ce qui concerne l'Esprit de Dieu qui entre en nous lorsque nous nous faisons baptiser. Ce n'était pas comme ça, dit-il au verset 58, avec nos ancêtres qui ont mangé la manne. Eux, ils mangeaient la manne. C'était aussi une nourriture essentielle pour qu'ils vivent. Mais c'était une nourriture essentielle pour qu'ils puissent vivre physiquement parlant. Pour nous, l'Esprit de Dieu est une nourriture spirituelle pour que nous puissions vivre éternellement. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le Christ a parlé de ce pain qu'il devait manger, de son sang qu'il devait boire, verset 66, Jean 6, un verset assez profond. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu cela, ont dit, c'est dur. Qu'est-ce qu'il peut comprendre? Et, verset 66, Plusieurs d'entre eux ont quitté le Christ. Plusieurs d'entre eux ont quitté l'Église. Comme aujourd'hui, certains quittent l'Église parce qu'il y a certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, l'histoire se répète. Si vous ne comprenez pas quelque chose, priez. Demandez à Dieu. Demandez à ses disciples. Demandez au ministre de Dieu qui pourrait vous répondre. Mais ne prenez pas des décisions rapides. Ne quittez pas le Christ. Voyez-vous, lorsque certains disciples voulaient quitter le Christ, Jean 6, 66, quelle a été la question du Christ? C'est beau de voir comment le Christ répond, comment le Christ agit. Le Christ s'est tourné vers Pierre, parce que les 12 aussi étaient confus. Il dit, « Et vous, dit-il, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Il s'adressait à Pierre en même temps aux autres apôtres. Alors, Pierre en premier a répondu, verset 68, une réponse fantastique. Une réponse qui, en elle-même, a déjà la solution, le secret. Et réfléchissez. Il dit, « Seigneur, dit-il, où irions-nous ? À qui irions-nous ? » Eh bien bon, on n'est pas d'accord, on ne comprend pas, mais où est-ce que nous irons? Où est-ce qu'on peut trouver la vérité? Il dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, à la base. Si vous avez cette compréhension, mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez pas quitter l'Église. Ce n'est pas possible. Voilà donc la bonne réponse. Où irions-nous? Tu as la vérité. La vie est une lutte pour tout le monde, cela est certain. C'est un défi. Nous avons tous des hauts et des bas, nous avons des jours merveilleux, d'autres jours assez tristes. Mettons, quoi qu'il en soit, nous devons toujours avoir ceci en tête. Ne jamais permettre à qui que ce soit, à quoi que ce soit, nous éloigner du Christ. Car lui a la vérité. Vous ne la trouvez pas ailleurs. Donc vous restez attaché au tronc de l'arbre. Le doute vient de Satan. Satan voudrait vous faire douter. Le doute vous amène vers la catastrophe. Vous rappelez l'apôtre Thomas, lorsque le Christ est revenu après sa résurrection, Thomas ne croyait pas. Il voulait absolument voir, toucher de ses propres mains que c'est vraiment le Christ. Dans Jean chapitre 21, verset 3, le Christ a appelé l'apôtre Pierre. Et il voulait lui parler parce que, voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Après la mort du Christ, les apôtres se sentaient abandonnés. Là encore, une autre importante décision. Le Christ ne nous abandonne jamais. Non, jamais. Donc, Pierre se voyait tout à fait perdu. Le Christ est mort et il ne comprenait pas pourquoi et comment le Christ pouvait mourir. Jean 21, verset 3, Pierre dit, « Je vais pêcher. » Il retourne à sa profession physique. Alors que le Christ l'avait appelé pour qu'il soit pêcheur d'hommes, il avait oublié ou bien il avait perdu le courage. Il dit, « Je vais pêcher. » Qu'est-ce qui se passe? Les autres le suivent. Tous ont dit la même chose. Donc, ils sont retournés à leur métier. Là encore, à cause du temps, je vais sauter un petit peu. Je vais vous montrer comment le Christ a répondu, comment il a agi. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas la nourriture physique qui compte. Ce dont nous avons besoin, c'est la nourriture spirituelle. Lorsque le Christ a vu le doute des apôtres, et il leur a parlé, voyez-vous comment il a réagi à l'égard de tous, surtout à l'égard de Pierre. D'abord, laissez-moi vous dire en passant que l'apôtre Paul lui-même, qui a passé par des souffrances terribles, lui aussi a eu cette même lutte en lui-même lorsqu'il a été persécuté par les autres. Laissez-moi citer Philippiens chapitre 3, parce que ça c'est important. L'apôtre Paul montrait aux gens que lui, au moins, il avait sacrifié quelque chose. Il a dit aux gens, Philippiens chapitre 3, qui il était, comment Dieu l'a appelé, qu'il a été, il était vraiment irréprochable à l'égard de la loi. Mais il dit au verset 7, ça c'est le secret, Philippiens chapitre 3, verset 7, il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Donc, tout ce que vous avez, tous vos talents, tout ce qui est formidable en vous, entre guillemets formidable, tout ça, ce n'est rien à cause de l'excellence du Christ. Je regarde, dit-il, toutes choses comme une perte à cause de l'excellence du Christ. Et dit-il, je ne garde pas en arrière. Verset 13. Je ne pense pas l'avoir, dit-il, saisi ce but, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant ce qui est en avant. C'est ainsi que vous pouvez être sûr de ne jamais quitter l'Église. Donc, j'espère que je peux encore citer un autre passage de la Bible, car c'est très important. Lorsque les apôtres sont retournés à leur métier de pêcheurs, le Christ a appelé l'apôtre Pierre. Regardez la conversation qu'il y a eu entre lui et le Christ. Pierre avait une bonne attitude. Pierre voulait savoir toujours qu'il resterait fidèle au Christ. Alors le Christ lui a posé une question, une simple question. Laissez-moi terminer avec ça. Jean, chapitre 21, versets 15 à 19. Alors que les disciples mangeaient du poisson, le Christ se montre à Pierre. Au verset 15, il dit, « Pierre, dit-il, est-ce que tu m'aimes ?» Une drôle de question. Pierre a été avec lui, Pierre a fait beaucoup de choses, s'est sacrifié. Voilà que le maître lui dit, « Est-ce que tu m'aimes ?» Le mot « aime » ici, c'est « agapé » en grec, c'est-à-dire l'amour suprême. Pierre n'a pas compris parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Il dit, « Mais tu sais bien que je t'aime. » Le Christ lui a dit, « Si tu m'aimes, paie mes agneaux. » Autrement dit, prends soin du troupeau, parce que le troupeau a besoin d'un berger, physiquement parlant aussi, sur place. Ensuite, pour une seconde fois, le Christ dit à Pierre, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Agapé toujours, l'amour suprême, au verset 16, Jean 21. Pierre dit, « Mais tu sais bien que je t'aime. » Mais chaque fois que Pierre répond, « Je t'aime », il ne parle pas d'agapé, il parle de philos, qui est l'amour au point de vue physique. Et le Christ lui dit, « Paix, mes brebis. » En fin de compte, pour une troisième fois, le Christ lui pose cette question. Et ça énerve en quelque sorte l'apôtre Pierre. Verset 17, il dit, « Fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Mais cette fois-ci, le Christ a changé de ton. Il n'a plus dit agapé, il a dit philos. Il s'est mis au niveau de la compréhension de l'apôtre Pierre. Et Pierre a compris, était attristé parce que le Christ lui a posé cette question trois fois. Il dit, tu sais que je t'aime. Et le Christ répète, paix, mes brebis. Cette même instruction se rapporte à nous en quelque sorte. Nous qui sommes dans l'Église. Si vous aimez le Christ, tâchez de répandre de la paix autour de vous. Tâchez de répandre la bonté, de l'amour. Tâchez d'aider les uns les autres. Quittez ce sentiment charnel de critique, de jugement, de se plaindre, d'ingratitude. Soyez reconnaissant pour tout ce que Dieu vous a donné. Soyez reconnaissant pour les sacrifices du Christ. Soyez reconnaissant de ce que Dieu vous a appelé, vous ou moi, qui ne sommes rien, à être un jour dans son royaume. La seule façon d'entrer vraiment dans son royaume, c'est de nous soumettre à Dieu de paître le troupeau, dans ce sens que, quelles que soient nos responsabilités, et de rester toujours proche de Dieu en l'aimant, lui, de façon agapée en grec, autrement dit, d'un amour supérieur. Et cet amour nous permettra un jour d'être nés dans le royaume de Dieu. J'avais encore beaucoup de choses à vous dire à ce sujet, mais prenez le temps de lire Jean chapitre 15, mettons. Parce que là, vous verrez ce que c'est qu'être attaché au Christ. Le Christ a dit « Je suis le vrai cep », Jean 15, 1. Donc, pour autant que vous restiez attaché au vrai cep, vous ne pouvez pas quitter l'Église. Et pour autant que vous restiez attaché au cep, Satan ne pourra jamais vous toucher. Et un jour, Dieu vous ressuscitera et vous serez dans son royaume éternellement.